Au quotidien, avec Yvan Deslauriers.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est une voix estivale pour cette semaine. C'est Yvan Deslauriers au micro qui remplace Hélène Denis et qui sera remplacée par Denis Martin Chabot à partir de la semaine prochaine pour le reste de l'été. Hein, je pense que jusqu'au mois d'août. N'est-ce pas, Mathieu?
Tout à fait, Yvan.
Oui. Alors, mon cher Mathieu, je ne sais pas si vous aviez un barbecue de prévu hier en fin de journée. Mais nous, le barbecue a été à l'intérieur.
Oui, je ne suis pas sorti de... Non, c'est pas vrai. À partir de 11h, j'ai passé la journée à l'air climatisé. Voilà, voilà.
Ah, c'est une bonne idée, ça. Mais nous, on a prévu manger à l'extérieur et l'extérieur a refusé.
L'extérieur avait prévu que vous mangiez à l'intérieur,
oui, c'est exactement ça. Avec des grands vents, une pluie assez solide. Et pas pour longtemps, mais quand même juste assez longtemps pour nous convaincre de manger à l'intérieur. Et nous aussi, on bénéficie de l'air climatisé. Alors, on peut pas se plaindre.
On est chanceux.
Même. Oui. Alors, je suis très heureux de passer la prochaine heure et demie avec vous. On a plusieurs sujets. Daniel Rioux va être avec moi pendant une bonne partie de la première heure. Bonjour, Daniel.
Bonjour, Yvan.
Alors, racontez-nous qu'est-ce que vous allez nous présenter dans ces deux interventions.
Ben, écoutez, tout d'abord, je vais commencer avec la chance. Hein, je vais vous proposer des actions pour attirer la bonne fortune, parce que la chance, ça relève pas de la pensée magique, mais on peut devenir l'instigateur de sa chance, et puis il y a plusieurs occasions de le faire. Et comme c'est l'été, j'ai trouvé cet article, ce sera à compter de 10h quelques, là,
oui.
Des bouteilles à la mer. Je vais vous raconter des histoires concernant des bouteilles à la mer qui ont eu des dénouements. Alors ça pourrait être intéressant. En même temps, ça va nous rafraîchir.
Oui, oui, oui. Mais est-ce que vous avez déjà fait ça, de mettre un message dans une bouteille?
Non, j'ai jamais fait ça. Et vous?
Non, pas de cette façon-là. Mais fut un temps, là, je vais trahir mon âge un peu, j'ai déjà correspondu avec des gens. Mais la première fois qu'on envoie, moi, j'envoie physiquement une lettre.
Ouais.
Dans la poste, avec un timbre et tout le tout. Alors, la première fois qu'on écrit, puis on ne sait pas s'il va y avoir un retour, c'est un peu comme lancer une bouteille à la mer.
Ah oui, vous aviez des correspondants en France, j'imagine?
Non, à Vancouver.
À Vancouver. Moi, j'avais une correspondante en France. Alors, ça trahit nos âges. Mais pour ceux et celles qui nous écoutent, il y en a peut-être que ça va leur rappeler un souvenir d'une correspondante ou d'un correspondant quelque part dans un pays.
Oui, oui, tout à fait. Alors, quand j'ai vu votre sujet, je me suis dit, ah, moi, c'est le plus proche que je suis arrivé de lancer une bouteille à la mer. C'est de lancer une lettre dans la boîte aux lettres pour espérer qu'elle me revienne.
Ben, écoutez, je vais vous en raconter des petites anecdotes après, là, puis vous allez voir, il y a des beaux dénouements, puis je vous en dis pas plus.
D'accord, c'est bon ça. Alors, on commence cette émission. Bon, oui, Mathieu, il sait que quand je remplace Hélène Denis, je programme des reprises, parce que je me considère moi-même une reprise de Hélène Denis. Alors, voici comment ça commence aujourd'hui.
J'aime prendre le temps qu'il me faut pour vivre. Regarder autour tout en cherchant l'amour. J'aime la musique et les chansons magiques. J'aime le soleil et l'amour éternel. J'aime le matin quand près de moi elle se réveille. J'aime bien la nuit dans le nid du paradis. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qu'il te faut pour monter plus haut? Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça? Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça? J'aime la campagne, le seul endroit pour être calme. J'aime les animaux
Y'a rien plus fin, y'a rien plus beau. J'aime le matin quand près de moi elle se réveille. J'aime bien la nuit dans le nid du paradis. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qu'il te faut pour monter, monter, monter plus haut? Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça? Aimes-tu la vie comme moi? Hey, hey, hey. Vois-tu la vie comme ça?
Aimes-tu la vie comme moi? On a reconnu la chanson, mais c'était King Melrose qui chantait.
Oui, voilà. Et c'est lancé maintenant pour cette semaine. J'avais oublié tantôt dans mes mots d'introduction de vous parler de ce qu'on va faire à 10h30. À 10h30, je vais parler avec Claudie Simard, qui est réalisatrice du documentaire « Emmène-moi », qu'on a vu sur Ami Télé en juin dernier et qui est toujours disponible. Et moi, j'ai eu un coup de cœur à voir ce documentaire-là. Ça va être une conversation vraiment, vraiment intéressante. Alors, préparez vos céréales, votre café, votre jus pour une bonne heure et demie ensemble. On va passer du bon temps. On commence par les unes. En été, les unes, c'est toujours plus doux, plus relax. On a le temps de passer à travers. Alors, je commence avec le Journal de Montréal. Journal de Montréal, bon, une petite nouvelle en une qui est vraiment pas drôle pour les gens qui sont concernés et même pour ceux qui lisent cette nouvelle. Une mort tragique dans un accident de la route. C'est un jeune adolescent de 19 ans qui se déplaçait dans le cadre de son travail. Il y a eu une collision et lui était du côté du passager et il est décédé. Il devrait avoir des lois contre les décès de gens de 19 ans. C'est comme ça, pas de bon sens. En plein été comme ça, là, la vie devant soi et tout s'arrête. Alors, le Journal de Montréal nous parle de ses proches qui sont tout simplement inconsolables. On les comprend très bien. On parle aussi d'une enquête du bureau d'enquête du Journal de Montréal qui parle, et je ne pensais pas que ça pouvait encore exister de nos jours, mais il semblerait que oui, que des représentants syndicaux du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction, l'Inter, ont été obligés de rénover la maison de leur patron, de leur patron du syndicat, sur leurs heures de travail pendant des années. On parle de pose de céramique dans un immeuble d'appartement appartenant au patron, transport de 150 cèdres pour enjoliver la cour d'un autre, rénovation d'une salle de bain. Ces représentants ont passé un nombre incalculable de jours à faire ce genre de travaux pendant qu'ils étaient payés par les cotisations des travailleurs. Alors, tu sais, à une époque où on chicane contre, entre autres, des grèves dans le domaine des transports, je pense à Québec en particulier, puis je vais y revenir pendant l'émission. Ce genre de choses-là est tout à fait inqualifiable, à mon avis. Et l'Inter a ouvert, suite à cette enquête, l'Inter a ouvert une enquête interne pour corriger la situation et s'assurer qu'elle ne se reproduise pas. Ensuite, du côté du Devoir, c'est le début d'une série d'articles sur les arrondissements de Montréal. Ça s'appelle, c'est dans une série d'articles qui s'appelle « Le Devoir de cité ». Et ça commence par Verdun, là où le fleuve et la verdure côtoient la faune urbaine. Alors, c'est... moi, j'ai beaucoup de plaisir quand je fais du vélo d'aller du côté de Verdun. La piste cyclable sur le bord des rapides est absolument fantastique. Alors, je pense que c'est un article qui vaut vraiment la peine de s'y arrêter. Ensuite, le devoir était à Cornwall. Pourquoi à Cornwall? Parce que choisir l'Ontario pour vivre en français, il y a une personne qui est, en fait, un couple qui est originaire du Cameroun. Alors, on parle de Jeanne Edwidge Ango Nguyamba et sa famille qui ont décidé de s'installer depuis près d'un an à Cornwall. Ils ont choisi de s'installer en français au Canada, mais pas au Québec, bien que la belle province accueille la majorité des immigrants francophones au pays. Une réalité plus discrète se dessine ailleurs, celle des nouveaux arrivants qui s'enracinent en milieu minoritaire. Jeanne Edwidge Ango Nguyamba est camerounaise d'origine. Quand elle a décidé de venir s'installer au Canada, son choix était fait. Elle voulait aller en Ontario. Même si des membres de sa famille vivent dans la ville de Québec, pour elle, l'Ontario était tout désigné. Après quelques semaines, c'est finalement à Cornwall que sa famille et elle ont choisi de vivre. Parce que à Cornwall, elle peut vivre en français et en anglais. Elle a suivi des cours d'anglais. Elle s'est intégrée dans sa communauté, mais dans sa vie quotidienne, elle est capable de, capable facilement de vivre en français. Alors, c'est pour ça qu'elle a fait ce choix. Ensuite, toujours dans le devoir, dans la littérature, élémentaire, mon cher Sherlock, Sherlock Holmes entre cette année dans la Pléiade, 95 ans après la mort de son créateur, Arthur Conan Doyle. Et ce que j'ai trouvé amusant dans cet article, c'est que son pendant français, Arsène Lupin, lui, ne s'y trouve pas encore pour l'instant. Je me tourne finalement vers la presse. En fait, je me tourne vers le devoir et la presse en même temps parce qu'on parle des recherches qui se poursuivent suite aux inondations dévastatrices au Texas. Les deux articles se ressemblent beaucoup, autant dans la presse que dans le journal, dans le devoir. Mais dans la presse, il y a différents onglets qui nous permettent d'aller plus loin dans la connaissance de cette situation-là. Et je vous dirige particulièrement vers l'onglet « Le péril derrière les charmes du Hill Country ». L'endroit où ces inondations-là ont eu lieu. On explique pourquoi, dans cette géographie-là, les inondations sont peut-être plus propices. Et j'entendais pendant la fin de semaine aussi à la radio, j'ai entendu qu'aux États-Unis, on a coupé beaucoup de postes du côté de la météo. Et on se demande si... L'effet qu'il y a beaucoup moins de ressources en météo, les avertissements n'ont pas été donnés adéquatement et peut-être que ça a coûté des vies.
J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. pensées, je les faisais miennes. Mais t'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai vu danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulous, dynamiteur d'aqueduc. La nuit, je mange, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Subsiste encore ton écho.
C'était Nash qui reprenait la chanson de Bachung, La nuit je mens.
C'était très très beau. Merci beaucoup. Je me tourne vers Daniel. Et Daniel, quelle était la probabilité que hier après-midi, on s'envoie mutuellement des messages en même temps?
Eh hey, Seigneur, on appelle ça une coïncidence, hein? Mm-hmm. Où on travaillait fort sur nos sujets aussi. Ça voulait dire ça. Puis on voulait s'offrir du temps de qualité pour la soirée, donc ça revenait aussi à ça.
Tout à fait.
Ah, tout à fait. Donc, mais là, puis comme je mentionnais à mon courriel, le plaisir de travailler avec vous aujourd'hui, ce lundi. Mm-hmm. Alors, c'est une chance, puis c'est d'ailleurs le sujet de ma chronique.
Oui, c'était mon entrée. Et vous savez que, que j'ai étudié en statistique. Alors, pour moi, tout ce qui est probabilité, chance et tout ça, il y a des chiffres qui sont attachés après ça.
Puis il y a peut-être aussi ce que je vais vous parler, un peu de la part des personnes, hein, de la personne, ça tombe pas du ciel, hein, la chance. Hein. Et puis il faut aussi y mettre du sien pour pouvoir dire qu'on a été chanceux, mais qu'on a fait notre chance. Hein.
Oui.
Donc, c'est justement dans la magazine Psychologie de mai 2024 que j'ai pris cet article parce que je trouve ça intéressant, des actions, des idées, donner des idées à des gens là, qui pensent pas trop à ça en ce moment, mais ils disent « Ah, tiens donc, j'ai un petit coup, ça me donner des idées. » Alors, tout d'abord, il y a 10 conseils ou actions qu'on peut faire. On peut les faire dans l'ordre comme dans le désordre. Alors, la première, ce serait ne pas attendre. On dit que la chance sourit aux audacieux. Mm-hmm. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Hein. C'est comme s'acheter un billet de loterie, par exemple.
Oui, tu peux pas gagner si t'as pas de billet.
Si t'as pas de billet, être en quête d'un emploi puis s'en trouver un, donc on a créé notre chance. Et la sagesse populaire, parfois, croit celle des philosophes. Donc, la chance ne tombe pas du ciel, mais rien ne sert de l'attendre non plus. Il y a Nietzsche qui disait « Le problème de ceux qui attendent, c'est qu'en général, ils ratent l'appel, ce hasard qui donne la permission d'agir. » Encore, faut-il être debout sur le pont, prêt à saisir l'occasion aux cheveux? Ce fameux « kairos » des Grecs, qui veut dire en français l'instant favorable, le moment opportun, qu'il faut savoir reconnaître, peut-être même initier des actions. Mm-hmm. Le kairos, c'est justement de créer des actions et pour la personne qui ose se lancer dans l'action aussi. Alors, il y a une image aussi par rapport à ce point numéro un, ne pas attendre. Alors, si l'on reste chez soi, regarder par la fenêtre, rien ne peut advenir. Il faut être dans la rue pour que quelque chose puisse tomber d'un balcon, que ce soit l'eau des fleurs ou encore la chance. Mmh. Le deuxième, c'est être en mouvement et agir. Agir, oui, c'est pas pire. Il n'y a pas pire repoussoir pour la chance que la passivité. Pour provoquer la chance, il faut sortir de son immobilisme. Ne pas être figé dans le défaitisme. Hein? Je ne suis pas chanceux, je ne l'aurai pas, etc. Être englué dans des pensées parasites. Hein? Et il faut bouger, être en mouvement. et aussi avoir un plan d'action. Il y a Picasso qui lui disait « L'inspiration existe, mais elle doit te trouver au travail. Hein? » La chance exige la même rigueur. Il ne faut pas hésiter à y aller à fond quand on veut avoir, obtenir ce que l'on désire. Il faut le faire aussi avec une certaine tactique et la finesse aussi. Alors, le fameux « go for it », hein?
Oui.
Ah ouais, vas-y.
Oui,
qu'il s'agisse d'une rencontre amoureuse, hein, parce qu'on parle de travail, on parle d'amour, on parle de loterie, mm-hmm. ou d'un travail, il est donc important d'aller au bout de l'expérience. Puis après ça, ben le pire, c'est de s'en vouloir plus tard, de ne pas avoir saisi l'occasion. Vous savez, la fameuse phrase « Aide-toi, le ciel t'aidera mm-hmm. », c'est l'une des clés de la chance. On ne s'en veut pas quand on a donné son maximum, au moins on a essayé, on n'a pas été immobile.
Pas de regret.
Et défaitiste, pas de regret. Il y a la troisième action qui se présente à nous, c'est visualiser ses projets. Hein? Se mettre au clair avec son désir et ses valeurs, mais dans quelle direction agir. Donc, un préalable avec la chance consiste justement à clarifier ses intentions. Qu'est-ce qui, pour nous, à ce moment précis, serait une chance? Le grand risque de se tromper de kairos, c'est-à-dire de moment opportun. Si l'on veut avoir un tant soit peu de prise sur la chance, c'est en servant nos valeurs, en mettant toute notre énergie au service de ce qui compte vraiment pour nous, tout en étant en phase avec la réalité du moment. Qu'est-ce qu'on estime juste beau et bon? Ça serait une question à se poser. C'est une question qui mérite d'être posée. C'est la question de base. Un exercice de base aussi consiste à passer en revue les grands domaines de vie. Hein. Quand on pense, on veut se lancer, on pense famille, travail, couple, spiritualité, citoyenneté, etc., et à préciser pour chacun de ces volets-là de la vie les grandes qualités que l'on aimerait incarner. Il y a l'altruisme, il y a l'humour, le professionnalisme, souplesse, justice, etc. Donc, à partir de ce moment-là, en évaluant ces domaines et ces valeurs, ben on dresse la liste des valeurs et on l'écrit rien que pour soi et ça peut devenir notre boussole interne.
Sûrement.
Donc, hein?
Sûrement.
Donc, pas une série d'objectifs à atteindre ou des cases à cocher là, pour réussir sa vie, tu sais, dans le genre avoir beaucoup d'argent, avoir une piscine, etc. Non. C'est pas de cocher des cases, mais des orientations. Voyez-vous, le mot est différent. Des orientations profondes qui donnent ainsi le sens de notre vie. Ça veut dire aussi oser être soi. On sait que dans la vie, parfois, on peut changer d'univers professionnel, on peut revisiter son couple, revoir son cercle d'amis, s'engager dans une association qui partage notre vision du monde pour faire des rencontres décisives, croiser à ce moment-là des opportunités qui nous réjouissent et que notre vie prenne tout son sens. Il y a la quatrième action, et ben ça c'est celle qui peut être des fois un peu difficile, c'est de sortir de sa zone de confort et oser les chemins de traverse, prendre mm-hmm. des petites ruelles des fois, là.
Oui, oui.
Ah, pourquoi pas? Alors, c'est sortir, justement, on y mentionne de sortir de sa routine, être ouvert et curieux, ne pas s'accrocher au connu si l'on veut être prêt à accueillir la chance. Faut risquer d'aller au-delà de sa zone de confort pour faire de la place au nouveau, hein, et à des surprises aussi, on peut être assez étonné. Parce qu'on sait qu'une part de nous ne veut pas bouger. Hein, on aime son petit confort, c'est rassurant, hein, c'est sécurisant. Hein, on sait à quelle heure qu'on va souper, puis bon, puis on a placé telle chose. Ça fait partie de la base. Mais si c'est trop, là, on devrait se poser des questions. Parce que une part de nous, c'est ça, de ne pas bouger, c'est que ça maintient, c'est le maintien du même, de tout ce qui est là, est rassurant, et même quand il n'est pas satisfaisant. Hein. Donc, le phénomène de la chance déjoue cette programmation et demande de s'ouvrir à quelque chose qui nous fait peur des fois, l'incontrôlable. Ah, la quête de confort est sans doute l'un des pires faux amis de la chance. Alors, faut oser quand on veut être chanceux et servir sa chance. Si l'on veut être là au moment où la bonne occasion se présente, ben il faut avant tout être soi-même présent.
Oui.
Accueillir aussi. Cinquième action, ben écoutez, je parlais de pensée défaitiste. Ben ici, on vous parle de cultiver un état d'esprit positif. La chance ne sourit pas à ceux qui lui font la gueule, c'est ce qu'on écrit dans l'article. Ouais. Elle est un état d'esprit, il faut être prêt à l'accueillir, croire en ses rêves, que c'est beau, hein, la belle étoile, se dire que tout est possible et ne pas se mettre de barrière. La chance est avant tout une décision. Il y a deux personnages en chacun de nous. Hein? Puis là, je pense que ça va résonner quelque chose chez... ça va résonner quelque chose chez tout le monde, là. C'est que celui qui croit à sa chance, puis il y a le saboteur. Hein? Des fois, on sabote une situation.
Oui.
Et on sabote, tu dis, j'irai pas, ça me donne rien. On est tous un peu, on est humain. Hein? Alors, il faut rayer la plainte et le pessimisme de son vocabulaire. Pour ça, ben, peut-être se nourrir de lectures positives. Noter des phrases qui nous encouragent, qui sont optimistes, qui peuvent nous aider. Hein? Puis noter dans un carnet toutes nos chances. Je suis malchanceux, mais notez dans un carnet toutes vos chances d'avoir une famille, un travail, un toit, des gens qui vous aiment, des amis, etc. On oublie, hein, on tient ça pour acquis. Et puis, sixième point, ben, se fier à son intuition, accueillir ses émotions. Alors, la part la plus profonde de nous, c'est ce qui est bon pour nous, hein, quand on y pense bien fort, là.
Mm-hmm.
On veut pas se flageller. Apprendre à déceler les micro-signes qui montrent que le vent est en train de tourner et que ça demande justement votre présence et que peut-être que votre chance se trouve là quand le vent tourne, puis être prêt à virer le bateau. La septième action, c'est s'appuyer sur notre base de données personnelles. Ben, qu'est-ce qui a déjà fonctionné au moment où j'ai pris telle action? On repère une qualité, une compétence qu'on a eue dans le passé et qui a favorisé la chance d'aller dans la mémoire du passé. On l'ancre en nous, puis on retrouve des images, hein, des images à ce moment-là, des émotions, des sensations qui ont accompagné ce souvenir. Puis ça peut être le petit go for it, là, qui peut vous aider. Vous me direz, c'est pas la première fois que je fais ça. Honorer la huitième action, honorer les choses que l'on souhaite. Hein. Je vais être content d'avoir un travail. Ben, j'aurais eu la chance.
Okay.
J'aurais fait pour. Cultiver des liens serait la neuvième, parce que les autres, c'est nos ressources. Hein?
Mm-hmm.
La chance, c'est contagieux. Les autres, c'est autant de monde qui s'ouvre à nous et qui nous permettent de faire de nouvelles connaissances et des sources inépuisables de connaissances. Et, par exemple, on peut aller faire du bénévolat aussi pendant qu'on cherche un travail.
Ben oui,
ou aller
vers
les autres. Hein?
Oui, puis je vous arrête tout de suite.
Ah, mon Dieu!
Mais on reprend ça au retour.
Il me reste la dixième.
Oui.
Vous écoutez Au quotidien avec Yvan Deslauriers.
Et Daniel Rioux qui va compléter sa liste des 10 comportements, des 10 actions à faire pour que la chance soit tournée vers nous.
Oui, soit au rendez-vous, hein, parce que je le mentionnais un peu plus tôt, la chance, ça relève pas de la pensée magique. Hein, il faut y mettre un peu de soi dans cette action-là. Et je vous mentionnais 10 actions, puis la dixième, je vous la livre tout de suite. Je pense que ça peut être raisonné aussi pour certaines gens, parce que là, on parle aussi de chance. Aussi, on se réfère beaucoup au travail, l'emploi, mais ça peut être une relation amoureuse, revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, etc. Donc, ce serait de recycler, on dit dans l'article, c'est écrit avec les guillemets, nos échecs, recycler nos échecs.
Ah oui.
Ouais, ne pas obtenir ce qu'on voulait peut s'avérer un extraordinaire coup de chance. Hein?
Mm-hmm.
Une belle façon de se réévaluer. Puis je vais vous parler de deux personnes qui ont eu des coups de chance, dont Alexander Fleming, qui a découvert la pénicilline grâce à une négligence, et à quelqu'un de très connu, hein, parce qu'on serait peut-être pas là aujourd'hui, Christophe Colomb, qui est parti à la conquête de l'Inde et puis qui découvre l'Amérique.
Ah, alors, ben oui.
C'est, voyez-vous, c'était pas ça dans sa mire, mais c'est comme ça que ça a tourné. Alors, le chanceux est celui qui optimise même les échecs. C'est un recycleur de malchance. Une vie humaine, c'est du compost qu'on écrit dans l'article, du déchet. Il faut savoir faire un engrais. Hein, c'est bien dit. Avoir de la chance, c'est aussi une question d'imagination. C'est très dynamique, la chance. L'important, c'est ce qu'on fait des événements. Quand un projet dans lequel on s'est investi s'effondre, il importe aussi de prendre le temps de ressentir et de reconnaître la tristesse, la déception, ben, dès qu'on est capable, de prendre un peu de recul et de se demander, et si ce n'était pas une malchance, hein, au final, et si au contraire c'était pour le mieux, ça vous dirige ailleurs, voyez-vous, Christophe Colomb serait un exemple. Qu'est-ce que je tire de cette situation? Donc, à ce moment-là, on s'ouvre à un autre possible, peut-être celui qui va mieux nous convenir. Mm-hmm. Donc, c'est ça les 10 actions pour attirer la chance, mais que la chance est en investissant de soi qu'on peut y réussir aussi.
Oui, et à vous écouter, j'ai pris quelques notes.
Oui.
Et, dans le passé, ça m'est arrivé, puis j'ai vu d'autres personnes à qui c'est arrivé aussi. Vous avez parlé, une de vos actions, c'est de voir le projet, d'établir
oui.
dans votre tête le
oui.
projet,
oui.
En parler aussi, en
oui.
parler à
oui.
tous ceux qui vous entourent. Il y a peut-être mmh. quelqu'un quelque part qui va lever la main en disant, hey, j'ai peut-être quelque chose pour toi, puis ça va ouvrir des possibilités.
Mmh, absolument. Puis vous savez que souvent, le lien entre les gens est pas, tu sais, le fossé est pas très grand. Hein? Je pense que c'est 2-3 personnes
oui,
qui
sont oui,
liées
oui.
à quelqu'un d'autre.
Oui, oui.
On peut faire des très, très belles découvertes. Hein? Peut-être pas découvrir l'Amérique. On peut. Mais ça peut être notre Amérique à nous. Ça peut être notre Amérique à nous.
Oui, oui, c'est ça. Et c'est important, je trouvais, en vous écoutant, d'avoir un entourage, d'avoir des amis, une famille qui
oui.
nous soutiennent dans nos folies, dans nos audaces.
Oui.
Et finalement, je notais que le parcours pour se rendre à un objectif, peut-être qu'on ne se rendra pas à l'objectif, mais le parcours peut être intéressant aussi.
Oui, bien souvent, c'est ça qui peut arriver. Puis moi, ce que je pensais quand je vous mentionnais la liste, hein, de faire la liste, j'ai une famille, j'ai des amis, peut-être, je pensais à des gens, des fois, qui disent, « Ah, oh, mais j'ai pas vraiment de famille, j'ai pas vraiment d'amis. » Bien, aller s'en faire des amis, se trouver une famille quelque part,
mm-hmm.
peut-être faire du bénévolat, s'impliquer, puis aller découvrir peut-être un univers, puis ça va vous rendre heureux, finalement.
Super. Alors, on arrête ici pour notre liste des façons de faire pour attirer la chance, mais vous avez choisi une chanson, vous,
mm-hmm.
pour préparer votre deuxième chronique. Alors, la voici.
Someone gets mine. I hope that's Mais si tu ne pars pas,
Message in a Bottle, c'était une chanson de Police, mais ici chantée par John Mayer. Une demande de Daniel.
Oui, oui, c'est une demande que j'ai faite hors d'onde, puis c'est justement pour permettre le préambule à cette chronique. Mm-hmm. Je vous pose la question à Mathieu et à Yvan. Qu'est-ce qu'ont en commun Mylène Farmer, Claude Nougaro et Daniel Balavoine et le groupe de Police?
Aïe, aïe, aïe. Mais là, Mathieu il s'est absenté quelques instants. Mais de mon côté, mon Dieu, j'ai failli dire que c'est des chanteurs français, mais ça ne marche pas avec The Police.
Non. justement, quand il reviendra, vous lui direz à Mathieu.
Oui.
Moi, je vais vous le dire, je vais vous dire la réponse à vous toute seule.
Okay.
Ils ont tous, les gens que j'ai mentionnés, les quatre personnes que j'ai mentionnées, ont tous écrit une chanson sur les bouteilles lancées à la mer.
Oh, oui, OK, je comprends.
Oui! D'où je voulais qu'on présente Message in a Bottle, et c'est John Mayer qui l'a chanté. Mm-hmm. Et c'est pour justement présenter cette chronique sur les bouteilles à la mer. Puis c'est des histoires. Je vous révélerai pas toutes les histoires, mais j'en ai pigé quelques-unes pour vous titiller un petit peu. Puis après ça, peut-être aller lire dans le magazine Ça m'intéresse de janvier 2025 les autres histoires qui parlent de bouteilles à la mer. Alors,
un peu de la chance, il faut le dire.
Ah, mon Dieu, vous allez voir, c'est assez intéressant comme chance, des coïncidences. Il y a eu des moments d'émotion dans certaines histoires, puis la plupart ont des histoires avec des émotions, je dois vous avouer.
Mmh.
Alors, c'est en 2002, c'est Karen, c'est une Britannique, elle trouve dans une bouteille un texte rédigé en français. Et ce texte émane d'une femme qui évoque la perte d'un fils adolescent. Touchée par sa douleur, Karen met tout en œuvre pour la retrouver, cette dame française. Elle consulte des registres de décès, de graphologue, etc. Elle va en tirer même un livre, La lettre dans la bouteille. Et en 2009, ses recherches, 7 ans plus tard, ses recherches aboutissent et l'enfant était en effet mort depuis 1989. Elle ne parvenant pas à faire son deuil, sa maman d'origine française avait jeté symboliquement une bouteille à la mer. Et il y a eu la rencontre entre les deux femmes, Karen et cette dame de France, qui a été particulièrement bouleversante parce que la dame était très choquée. Elle s'est sentie violée dans son intimité par rapport à son deuil. Et Karen de dire « Je me sens coupable de l'avoir tellement traquée alors qu'elle n'avait rien demandé ».
Oh, c'est triste un peu. Hein?
C'est triste un petit peu. Il y a des histoires un peu plus heureuses. C'est en 1956, c'est un marin suédois, Monsieur Viking, qui se prend à rêver de l'être aimé alors qu'il navigue au large de Gibraltar. Hein, il jette une bouteille par-dessus bord, laquelle contient une lettre débutant par « À quelqu'un de beau et de lointain ». Et 2 ans plus tard, Paulina, une jeune Sicilienne vivant à Syracuse, trouve l'objet et avec l'aide du curé de la paroisse et d'un dictionnaire, elle parvient à traduire la fameuse missive. Elle y voit d'ailleurs, Paulina, un signe du destin, puis elle décide donc de répondre, donc de créer sa chance finalement. Elle y mentionne dans sa bouteille tirée à la mer, lancée à la mer, « Je ne suis pas belle, mais cela paraît miraculeux que la bouteille ait voyagé si loin jusqu'à moi. J'ai l'impression qu'il y a lui laisser une adresse quelconque. » Parce que
ah oui?
Pas. Oui, je penserais peut-être que oui. Alors, à ce moment-là, il va se développer une relation épistolaire et il y a des photos qui vont être envoyées au monsieur en question, monsieur Viking, et qui finit par rejoindre l'île italienne et devinez, ça finit heureusement, par un mariage. Il a épousé Paulina. C'est pas possible, hein, une histoire de bouteille à la mer, c'est pas mal.
Oui.
Y a ici les derniers mots d'un soldat, c'était, on se reporte en septembre 1914, Thomas Hughes navigue vers la France et sur le pont du navire, il écrit une ultime lettre à son épouse et la place dans une bouteille avec un mot destiné à la personne qui la trouverait. Alors, il mentionne une lettre très protocolaire. « Monsieur ou madame, jeune homme ou jeune fille, pourriez-vous transmettre cette lettre et gagner la bénédiction d'un pauvre soldat britannique sur le chemin du front ?» Malheureusement, il meurt 2 jours plus tard sur le champ de bataille et un homme va récupérer cette fameuse bouteille dans la Tamise en 1999 et avec beaucoup d'émotion, il est allé la remettre à la fille du militaire de Thomas Hughes, âgée de 86 ans.
Oui.
Ah, c'est une belle histoire, ça. Mmh. Et une dernière parce que c'était célèbre, c'est le fameux Titanic. Alors on retourne 2 ans plus tôt, c'est-à-dire en avril 1912. Hein, le Titanic vient de heurter le fameux iceberg et tout est perdu, même la cabine radio est envahie par l'eau. Alors comment dire au revoir aux siens? Hein? Alors il reste une solution, la fameuse bouteille à la mer. Et c'est l'option qu'a prise l'Irlandais Jeremiah Burke, qui a embarqué avec sa cousine Nora pour rejoindre des proches installés à Boston, aux États-Unis. Alors, devant le drame inéluctable, le jeune homme a vidé la fiole d'eau bénite que lui avait confiée sa mère avant le départ et il glisse un ultime message. Et depuis, il écrit, depuis le Titanic, adieu à tous, Jeremiah Burke, de Cork, en Irlande. Et il va périr peu après avec sa cousine Nora. C'est une triste ironie du sort parce qu'en 1913, les courants vont ramener le flacon en Irlande à quelques kilomètres de la maison familiale.
Oh!
Ah, c'est toute une histoire, ça?
Oui, vraiment. Mais ce que j'ai retenu aussi dans ce que vous avez dit, c'est que c'était une flasque où il y avait de l'eau bénite.
Oui, de l'eau bénite, probablement que la maman était prête. Bien, c'est des Irlandais catholiques, elle a dû aller, ou peut-être protestants, bien, était allée à l'église, puis elle a fait remplir par le curé, hein, ou peut-être avec de l'eau bénite, pour que ça porte chance à son garçon.
Alors, grand merci, Daniel. Puis là, Mathieu est devant moi.
Alors,
oui, vous pouvez lui poser la question.
Ah, vous êtes bon, vous, là. D'accord. Okay. Mathieu, dites-moi, parce que tout le monde connaît la réponse, sauf vous.
Oui.
Qu'ont en commun Mylène Farmer, Claude Nougaro, Daniel Balavoine et le groupe de police? Qu'ont-ils en commun?
Ont-ils chanté la même chanson?
Eh, Seigneur, non!
Non!
Les quatre ont écrit une chanson sur les bouteilles lancées à la mer. Vous pourrez en remettre de ces belles bouteilles à la mer.
Oui, on aura des reprises. On a plein de reprises.
Ben, merci.
Ah, ça fait plaisir. Puis, Yvan, au plaisir de vous retrouver. Hein?
Ben oui, Daniel, et je suis tenté de vous dire bonne chance.
Oh, merci. Et vous aussi, bonne chance. Au revoir.
J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Et c'est ma raison d'aimer la vie. Depuis le jour où tu m'as souri, j'ai un amour qui ne veut pas mourir. J'ai un amour qui ne veut pas mourir et qui grandit avec les saisons.
veut pas, qui ne veut pas mourir. Et j'étais seul quand je t'ai rencontré. Et tu m'as tendu la main. Je t'ai suivi sur ton chemin. Je veux rire, je veux enfin vivre. Je veux te dire que j'ai un amour qui ne veut pas mourir.
Chanson de René Martel, sans doute l'avez-vous reconnue?
Oui.
Et c'était Gab Bouchard qui la chantait.
Je suis jamais capable de reconnaître Gab Bouchard. c'est toujours une surprise pour moi quand vous faites jouer du Gab Bouchard.
Ben, tant mieux.
Et c'est toujours une belle surprise. Alors, du côté des actualités, je voulais, j'en ai parlé en début d'émission un petit peu, de la grève du réseau de transport de la capitale. Et... je vais vous lire un article qu'on a trouvé sur tvanouvelles.ca par Dominique Salgado, qui est directeur général du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap, le CAPVICH. Alors, pour lui, pour, dans ce, on recommence ça. Sa chronique nous est intitulée « Grève du RTC, du réseau de transport de la capitale ». Pour certains, quand le bus s'arrête, c'est la vie qui s'arrête. Alors il écrit « Décidément, jusqu'au 13 juillet, la grève des employés d'entretien du réseau de transport de la capitale plongera à nouveau des milliers de personnes dans une situation d'isolement forcé. Le CAPVICH tient à exprimer sa profonde inquiétude et sa colère devant cette réalité qui frappe particulièrement les personnes handicapées, surtout celles qui, trop souvent oubliées, ne sont pas admissibles au transport adapté ou qui n'ont tout simplement pas accès pour répondre à tous leurs besoins quotidiens. Nous le disons sans détour, nous appuyons le droit des travailleurs à revendiquer de meilleures conditions. Mais pourquoi ce droit se manifeste-t-il encore et toujours au détriment de ceux qui n'ont déjà aucun filet? Pourquoi briser le seul lien que beaucoup ont pour faire leurs courses, aller chercher des médicaments, se rendre chez leurs rendez-vous médicaux ou simplement voir le monde et participer à la vie socio-communautaire? Une personne vivant avec un handicap n'a pas toujours de voiture, n'a pas toujours un réseau familial ou un voisin prêt à dépanner. Quand le bus s'arrête, c'est la vie qui s'arrête. Sans autobus, c'est le retour à la maison comme prison. Pour beaucoup, le transport collectif est le seul moyen de garder un minimum d'autonomie, de briser la solitude, de défendre leurs droits et de faire entendre leur voix. Couper cet accès, c'est leur dire qu'il n'existe pas. C'est un manque de respect et de considération qui blesse bien au-delà de 10 jours de grève. Nous interpellons donc le syndicat, la direction du réseau de transport de la capitale et les élus municipaux. Vous avez une responsabilité. Vous avez le pouvoir de faire exister des mesures d'atténuation, des services essentiels minimaux, des solutions concrètes pour ne pas couper net le droit de circuler. Vous avez aussi le devoir de ne pas faire payer aux plus vulnérables le prix fort d'un conflit de travail. Cette grève doit rester un moyen de pression sur les décideurs, pas un outil d'exclusion pour ceux qui n'ont déjà que trop souvent à se battre pour chaque déplacement. Le transport collectif est un droit, pas un privilège. L'interrompre totalement, c'est piétiner la dignité de milliers de citoyens, et cela, nous refusons de l'accepter. C'est signé Dominique Salgado, et on a trouvé cet article dans sur le tvanouvelle.ca. Dans un autre contexte complètement, complètement différent, c'est l'été, et on veut aussi aller voir des spectacles pour se récréer, pour se la couler douce. Je vous parle de deux spectacles qui sont présentement en ville. D'abord, l'adaptation théâtrale des Boys. Et l'article que j'ai trouvé dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui et des critiques que j'ai entendues aussi à quelques reprises à la radio depuis vendredi dernier sont tous excellentes. Même près de 30 ans après avoir disputé leur premier match, Méo, Stan, Bob et compagnie n'ont rien perdu de leur forme. Les personnages du cycle culte de Louis Saya enfilent à nouveau leur patin avec le spectacle « Les Boys », un nouveau tour de piste irrésistible, immensément divertissant et surtout franchement hilarant. Très peu d'histoires québécoises ont pu accéder à la légende au même titre que les Boys. 28 ans après la création, les répliques sont demeurées burinées dans notre imaginaire collectif. C'est probablement la force de notre mental. OK, je fais une parenthèse là-dessus. Là. Oubliez ça, c'est pas dans l'article. Ça vient de moi. S'invitant toujours ça et là dans les conversations des initiés. Si le hockey est pour notre peuple une véritable religion, les quatre films de la franchise cinématographique et de la série télé qui en est découlée appartiennent vraisemblablement au sacré. Bref, l'idée de redonner vie à ces personnages dans un autre médium, ici la scène, était périlleuse. Casse-cou même, diraient certains, et pourtant, le metteur en scène, Marc Saint-Martin, relève le défi avec brio, offrant une nouvelle vie, résolument plus moderne, à Stan et à sa bande, sans toutefois les dénaturer. Ça se passe au théâtre du Vieux-Terrebonne jusqu'au 2 août. Je vous rappelle qu'on est aujourd'hui le 7 juillet, alors c'est pas énormément de dates, là. Alors, si vous voulez que la chance tourne vers vous, vous devez bouger. Et il y a une tournée provinciale qui s'amorcera en janvier 2026. Pour toutes les dates, vous allez voir lesboys.com pour en connaître davantage. Et une autre pièce dont je voulais vous parler, ça s'appelle Les 39 marches. C'est un Hitchcock en tour de force. Ça, c'est les trois amis, Luc Guérin, Benoît Brière et Martin Drainville, qui partagent la scène dans Les 39 marches. Les 39 marches, c'est une parodie d'un film de 39 Steps d'Alfred Hitchcock. C'est sorti en 1935, le film, qui lui était inspiré d'un roman qui raconte le destin extraordinaire d'un Canadien du nom de Richard Haney, qui se retrouve, malgré lui, mêlé à une histoire d'espionnage. Soupçonné à tort d'un meurtre, il doit tenter de s'innocenter tout en sauvant la Grande-Bretagne d'une menace étrangère. La grande différence entre le film et la pièce, selon Martin Drainville, il y a à peu près 147 acteurs qui jouent 147 personnages dans le film, et nous, on est quatre. Alors, il y a les trois amis dont je vous ai parlé et il y a Evelyne Rompré aussi qui est la quatrième. Alors, il y a énormément de changements de décors, de changements de costumes. Ça se fait à une vitesse grand V. Benoît Brière dit justement à cet effet, « C'est seulement pour perdre du poids que j'ai accepté de jouer dans ce show-là. » Alors, il semble que ça soit extrêmement drôle et intéressant. La pièce « Les 39 marches » sera présentée à compter du 9 juillet, donc à partir de mercredi, à la salle André-Mathieu de Laval, avant des passages à Sainte-Agathe, Terrebonne, Gatineau et Québec. Et là aussi, il va y avoir une tournée en 2026. C'est dans la presse d'aujourd'hui. On fait une dernière pause pour cette émission et au retour, on va parler d'un exploit fascinant. Ça s'appelle, c'est décrit dans un documentaire qui s'appelle Emmène-moi. Alors, on va parler avec Claudie Simard.
Au quotidien, avec Yvan Deslauriers.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirages. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. De la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me prends au cou de mon rêve dans les bars fermes que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port.
Chanson de Charles Aznavour, mais ici chantée par Sau Lune.
Très belle trouvaille. Merci, Mathieu. Alors, dans ce prochain segment, on va vous parler d'un documentaire, mais c'est un documentaire coup de cœur. Je l'ai regardé à la fin de la semaine dernière. Ça s'appelle Emmène-moi, plutôt. Ça raconte une histoire de randonnée, avec... entre autres, une personne qui a des difficultés, donc on l'a amené en joëlette, une randonnée de 96 km en 4 jours à travers montagnes, pluie, etc. Et on reçoit la réalisatrice Claudie Simard. Et Mme Simard, avant de commencer notre conversation, j'ai déjà parlé à Fernand Courchêne, qui organise aussi des randonnées un petit peu de ce type-là. Il fait le défi Everest Orford avec des personnes à mobilité réduite comme ça. Et je l'avais traité de fou heureux en entrevue une fois ici. Alors, je vous retransmets le compliment.
Effectivement, il y a beaucoup de folie et beaucoup de bonheur, non seulement dans le film, mais avec la gang en général.
J'imagine. Alors, racontez-nous en quelques mots, évidemment, l'histoire de Samuel, de sa Joëlette et de l'équipe qui l'a entouré pour faire ce périple complètement hors de proportion.
Oui, bien, c'est sûr que l'histoire narrative, c'est-à-dire qu'est-ce qui se déroule, c'est l'histoire d'un groupe qui choisit d'emmener Samuel vivre pas une petite balade en forêt, mais vraiment un défi de taille là, dans un autre pays, à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, ça se trouve à l'est de l'Afrique. Ça a pris deux vols de 11 heures pour se rendre. C'est vraiment très, très loin. Et ce défi-là de 4 jours est total aussi. Et de prime abord, quand on entend parler de cette histoire-là, on peut se dire, OK, oui, ça a l'air fascinant, mais qu'est-ce que ça raconte finalement, ce film-là? Pourquoi, quel intérêt j'aurais à regarder des gens qui font un exploit sportif? Puis je me suis posé la question dès que j'ai entendu parler de leur projet il y a plus de 2 ans maintenant. Dès que j'ai entendu parler de ce projet-là, je me disais, bof, moi, là, les exploits sportifs, ça vient pas me chercher. Ça m'émeut pas autant que d'autres. Puis je voulais passer mon tour, mais j'avais une petite voix interne qui me disait, ça me dérange un peu, j'ai envie d'aller quand même en savoir davantage. Puis j'ai rencontré Éric Sévelet, qui est un des... finalement, il se dit la bougie d'allumage.
Oui,
celui qui a eu cette idée.
C'est le fou en chef, lui. Hein?
Le fou en chef qui a embarqué dans son groupe des gens comme ça au fil du temps. Puis là, je me suis rendu compte en leur parlant, entre autres avec Sylvie aussi. Bon, il y a plein de gens dans l'organisation, Frédéric Michaud. Et là, je leur parlais, puis je me disais, ben OK, j'ai vraiment pas le bon scénario. Donc, quand j'ai compris que c'était vraiment une histoire de courage, d'inclusion, pour briser l'isolement, pour montrer que c'est possible, pour faire passer les gens de l'individualité à la collectivité, ça m'a interpellée. Ça, c'est universel. Ça, je trouvais ça important. Donc, au lieu de se poser la question pourquoi on ferait ça, je me suis posé la question et surtout, mettons, qu'est-ce que ça donne? Mais moi, ma question, c'est qu'est-ce que ça peut nous enseigner de les regarder?
Oh, mon
qu'est-ce
Dieu.
Qu'on peut apprendre en les regardant faire? Et on apprend beaucoup de choses.
Ah oui, tout à fait. Mais avant d'arriver là, de quelle façon les planètes se sont alignées pour que vous soyez au courant de ce projet-là et que vous sentiez qu'il y avait peut-être un lien à faire avec un documentaire?
Bien, vous savez, les histoires, elles arrivent de partout. J'étais en train de marcher en montagne, justement, avec mon amie Mélanie, mon amie Annie, et puis on était au Mont Anne, qui est dans la région de Victoriaville, au centre du Québec. Et ça donne que c'est les gens majoritairement viennent de là, ceux qui ont fait le trek. Et elle me dit, ma cousine Bianca, son chum Pierre-Luc, qui a embarqué dans un projet de fou, puis là, elle m'a parlé de ça comme ça. Donc, c'est venu à mon oreille de cette façon-là. Ensuite, j'ai trouvé des articles dans le journal local. Mm-hmm. J'ai découvert le réseau Autonomie Santé. Et c'est ce qui m'a mené là à contacter Éric Sévelec, Sylvie et Frédéric aussi pour parler vraiment de l'organisation de ce voyage-là.
Moi, ce qui est, en fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont touché. Mais j'ai beaucoup aimé aussi la structure. On passe du temps dans la préparation, après ça, la réalisation du projet et la fête en arrière. Comment vous avez établi cette approche-là? Est-ce que c'est en discutant avec les gens concernés?
Bien, en fait, pour moi, c'est vraiment important en scénarisation de bien établir parce que c'est un film que je voulais rassembleur, puis donc il faut qu'on prenne le temps de connaître les gens puis qu'on s'y attache à ces gens-là avant de vivre l'aventure. Je trouvais ça, j'aurais pu faire un film qui se déroule exclusivement à La Réunion. On aurait pu construire l'histoire de cette façon-là, mais j'avais envie de passer beaucoup de temps ou le plus de temps possible en amont pour qu'on puisse comprendre c'est quoi la réalité entre autres de Samuel mm-hmm. qui vit avec le syndrome de Louis Barre. C'est quoi la réalité des gens en situation de handicap, pour qu'on puisse après ça prendre la mesure de l'impact d'une aventure comme celle-là dans leur vie, dans leur qualité de vie, dans leur sentiment d'appartenance à une communauté, tout ça, là, ça. Et je parle de Samuel, mais en fait, c'est que tout le monde a été transformé par cette aventure-là.
Exactement.
Les
oui.
gens qui ne cherchaient pas à briser l'isolement se sont découverts finalement un sentiment d'appartenance au groupe en disant hey, j'avais pas vu ça venir. C'est ce qui est beau avec non seulement avec le documentaire, mais avec des aventures comme celle-là, c'est qu'on vit une transformation. Moi aussi, l'équipe aussi, moi je m'en allais là avec l'idée, bon, mais je vais aller capter des images, regarder des gens, les observer, mm-hmm. mais ils m'ont émue. J'ai été moi aussi transformée. Le regard que je porte sur Samuel est différent quand je l'ai rencontré. Moi, je n'ai pas dans mon entourage des gens en situation de handicap. J'avais un certain malaise. Je ne savais pas comment m'adresser à lui. On ne se connaissait pas. Et puis, au fil du temps, des rencontres, non seulement on se connaît, Samuel et moi, mais quand je le vois, je vois Samuel. Je ne vois plus une personne en situation de handicap.
Oui, oui,
ça, c'est un procédé que beaucoup de gens qui gravitent autour de l'univers des personnes justement en situation de handicap connaissent. C'est un procédé qui est connu, mais moi, je l'ai vécu. Et il y a d'autres gens qui l'ont vécu et il y a plein de gens justement qui ont été transformés par ces rencontres-là.
Tout à fait. Je voulais savoir comment les... Puis d'ailleurs, j'ai réalisé qu'après avoir vu le documentaire, la seule personne dont je me souviens du nom, c'est Samuel.
Ouais.
Tous les autres, c'est des gens qui se sont donné la main, littéralement, vraiment, pour que ce projet-là se réalise. Et leur nom est plus ou moins important dans cette réalisation-là, mais l'ensemble est vraiment crucial. Mais je voulais savoir comment les gens ont réagi avec la caméra, avec le micro. Je pense à une scène en particulier où il y a une participante qui se demande si, à la fin de la première étape, si elle va continuer. Et
ouais.
Il y a son malaise physique, puis en même temps, elle dit « Je ne veux pas laisser tomber le groupe. » Comment elle a... Est-ce qu'elle a tout simplement oublié qu'il y avait une caméra? Comment ça fonctionnait?
Bien, j'ai été témoin de ce que je pense beaucoup de cinéastes de documentaires cherchent, c'est-à-dire cette barrière-là qui tombe où on oublie tous la caméra. Ce qui compte, c'est le lien qu'on construit. C'est d'Anne-Marie dont vous parlez, Anne-Marie. J'ai eu la chance on a connecté rapidement avec sa conjointe Stéphanie aussi.
Mm-hmm.
Il y a eu cette espèce de connexion humaine-là très rapide avec pas mal tout le monde, je trouve. Puis ça fait en sorte qu'on se voyait, on allait au Québec, d'où l'importance aussi de les fréquenter au Québec. Vous dites, c'est spécial, on a assisté à une scène, on avait l'impression que la caméra n'était pas là. Ils l'ont oublié, oui. Ils l'ont oublié parce qu'il était Olivier qui était le directeur photo, Sylvain qui était le preneur son. Ben, on faisait partie de la gang. C'est ce qu'ils nous avaient dit avant qu'on parte. Ils nous comptaient comme membres du groupe. Donc, le fait qu'on les a fréquentés en amont, le fait qu'on a établi des liens, qu'il y a vraiment une relation qui s'est développée, une belle amitié, ben, ça fait en sorte que rendu dans l'aventure, on était avec eux. On n'était pas là en les observant. On était vus comme des alliés. Puis je pense que ça transparaît dans le film.
Oui, ça, c'est sûr, certain. Maintenant, on voit très bien dans le film les difficultés. Je pense, entre autres, les scènes où il y a de la pluie, où c'est glissant, tout ça. Et on voit très bien, effectivement, les difficultés et l'entraide que chacun apporte pour faire avancer le groupe. Puis j'arrêtais pas de me dire, ouais, mais il y a quelqu'un qui est en train de filmer. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre du son. Techniquement, ça doit être aussi tout un exploit de faire ça?
C'était un tournage de haute voltige, je vais le dire comme ça certainement, mais on a un petit secret à vous révéler. Il y a aussi des moments qui ont été captés par les participants. Nous, on ne pouvait pas être 24 heures sur 24 avec eux pendant le défi pour des raisons physiques. Nous, on avait besoin de dormir pour pouvoir retourner au travail.
Oui, oui.
Mais il y avait aussi le fait que les batteries du matériel devaient se recharger pour qu'on puisse repartir. Et que comme ça, en montagne, pendant 24 heures, on avait besoin de sources d'énergie. Donc, il y a des moments où on les quittait. On allait faire le plein d'énergie pour les batteries, le matériel, on faisait les cartes mémoire, on rechargeait tout ça, on rechargeait nos propres batteries aussi, et on retournait les retrouver à des points de rencontre. Ils ne savaient pas les moments où on allait les retrouver. On leur a réservé quelques surprises. Entre autres, il y a un moment où on est allé les rejoindre en montagne où il n'y a pas de route et on a pris un hélicoptère. Donc, eux ne s'attendaient absolument pas à ce qu'on soit là.
Oui, et quand
ils nous ont retrouvés, la joie, ils étaient contents parce qu'ils savaient qu'ils arrivaient. On devenait un peu cette espèce de... S'ils nous voient, c'est parce qu'ils sont bientôt arrivés à un point de ravitaillement. Donc, ça, on nous a dit, ça nous motivait quand on vous voyait parce qu'on savait qu'on arrivait bientôt à quelque part où on allait pouvoir se reposer. Donc, et il y a des participants qui avaient des GoPro. Nous, on avait la production installée du matériel, des GoPro, des micros sur eux. Donc, nous, on essayait de capter pendant qu'on n'était pas là. Mais les participants eux-mêmes aussi avaient, il y en avait quelques-uns là, qui avaient leur propre GoPro et qui ont capté des moments. Et heureusement, parce que notre matériel est arrivé, il y a toujours des pépins techniques en tournage, souvent. Et il y a eu un moment où la caméra a carrément été arrachée parce qu'ils sont tombés. Ils ont vraiment eu chaud. Mm-hmm. Puis ils ont eu peur, ils se sont agrippés, puis la caméra est tombée. Donc, notre caméra était non disponible pendant qu'on n'était pas là, mais par chance, eux avaient la leur. Donc, il y a des moments, comme vous dites, on se dit, mais voyons, la caméra était là tout le temps, mais il y avait nous, il y avait des fois notre matériel et d'autres fois le leur.
D'accord. Je pense que ça me donne le goût de le revoir juste pour essayer de deviner quand est-ce que c'est. Est-ce qu'il y a des moments que vous avez été obligé de couper au montage puis que vous regrettez? Vous dites, oh, j'aurais donc dû le garder.
Il y a toujours des moments magnifiques qui se déroulent sous nos yeux qu'on ne peut pas conserver au montage parce que lorsqu'on est en tournage, on explore plus quelques pistes quand même. Il y a eu une rencontre, entre autres, avant notre départ, qui s'est faite avec Denis. Denis, qui est une personne en situation de handicap depuis, je ne veux pas me tromper, il ne sera pas content, 24 ans, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, mais qui a eu une vie, il dit, c'est ma vie 2.0. Donc, lui, c'est un personnage...
Celui avec la jambe amputée?
Non, ça, c'est Stéphane. Denis, c'est ça. Denis ne fait pas partie des gens qu'on rencontre dans le film, mais on l'a rencontré en tournage.
Je vois.
C'est vraiment quelqu'un d'inspirant qui m'a marqué. Et Samuel nous disait à un certain moment, toute part de Denis, c'est lui qui est vraiment lui aussi une bougie d'allumage. Denis, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'initiatives, qui habite dans la région de Victoriaville, qui est de tous les événements. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, mais malheureusement, au montage, ça nous aller rencontrer Denis nous éloignait un peu de notre focus qui est vraiment avec Samuel et avec les porteurs. Parce que Denis ne faisait pas partie des porteurs. Mm-hmm. Il est lui-même en fauteuil roulant, mais il faisait partie de l'équipe de la logistique. Puis on avait envie, là. Moi, j'avais envie de le mettre à l'écran puis qu'on rencontre cette personne formidable. Mais malheureusement, il faut faire des choix scénaristiques aussi. Puis si on rentrait dans l'histoire de Denis, ben on s'éloignait de l'histoire de Samuel et des porteurs. Donc, on a fait le choix d'évacuer ça. Donc ça fait partie des choses qui arrivent quand on tourne un film. Il y a toujours des grands deuils. Des fois, c'est un moment, puis des fois, ben c'est quelqu'un qu'on aurait aimé présenter.
Et est-ce que, sûrement que l'équipe et Samuel ont vu le film, est-ce que ça a été présenté que sur AMI TV? Est-ce que ça a été présenté ailleurs?
Ça a été présenté pour le moment sur AMI Télé. Il y aura une autre diffusion qui viendra. Je vais laisser les gens concernés en faire l'annonce, mais il y aura d'autres diffusions à venir au cours des prochains mois, certainement. Vous allez entendre parler, je le souhaite, de tout cœur de ce film-là, Emmène-moi. Il y a également une version long-métrage documentaire qui est en production en ce moment. Donc, après avoir... parce que faut savoir, l'idée de film que j'avais au départ, c'était vraiment un long-métrage documentaire, un peu d'observation, où vraiment on est avec eux, mais il n'y a pas de narration. Moi, c'est l'idée que j'avais. Je voulais vraiment vivre l'expérience avec eux. Puis, en cours de route, pendant notre financement, on a rencontré AMI Télé, puis je trouvais que ça faisait tellement de sens de faire un film en version télé aussi, pour AMI Télé, un film inclusif, alors qu'on parle d'inclusion. Donc on a eu la chance d'avoir comme partenaire AMI Télé pour poursuivre et tout ça. Donc il y a ce film-là avec le narrateur Bruno Blanchet qui existe.
Oui, très belle voix, une très belle narration.
Ah, oh, Mais Bruno, il faisait partie de l'aventure à un certain moment, donc il nous le dit dans le film, il est entraîné avec eux, il a été touché, puis il a voulu continuer à les aider, à soutenir leurs idées, à faire connaître leur projet. Donc ça c'est, pour moi, sa présence est venue d'elle-même. Là, quand je l'ai contacté, je trouvais que ça faisait tellement de sens, puis de sa belle voix, le ton aussi de Bruno Blanchet, puis un peu comique et tout ça, ça fonctionnait. Donc il y a le film qui existe. Il va exister sur d'autres plateformes prochainement. Il va exister aussi en version long métrage sans narration. Vraiment une autre expérience, une autre façon de vivre l'aventure.
Ben, je vais sûrement suivre ça. Mais la réaction des gens de l'équipe, comment ça a été quand ils se sont vus sur l'écran?
J'ai trouvé ça vraiment... pour moi, c'est là où je peux enfin vérifier si j'ai bien fait mon travail, c'est-à-dire de les voir réagir. Les gens ont été tellement touchés. On a fait un visionnement de groupe chez une des chez Claudette, qui est une des participantes, je dirais, de l'équipe logistique. Donc, elle était avec nous à la réunion, Claudette, puis elle a organisé ça chez elle. On s'est rassemblés, on était une vingtaine. C'était tellement beau. Les gens ont ri, ont pleuré. J'étais contente de les entendre rire au moment où je me disais, d'après moi, ça va être un moment drôle. Donc, tout le monde a bien ri. Et ça a été très émotif. Ils étaient, je pense, en tout cas, j'ai senti qu'ils étaient très contents de voir cette, et très reconnaissants de voir leur aventure portée à l'écran. Parce que c'est tellement fort. Quand on vit quelque chose comme ça, c'est très, très fort. C'est vraiment puissant.
Oui.
Tu essaies de le communiquer par la parole, en le racontant à des amis. C'est difficile à expliquer ce qu'on a vécu. Et donc, je pense que le film vient comme un peu prendre le relais de cette parole-là pour dire, ben, tiens, tu veux savoir ce que j'ai vécu, va voir ça, ça va peut-être te donner une idée. Donc, c'est ce que je souhaitais. Puis, de ce que j'ai compris, ça avait fonctionné.
Oh, et ça concrétise de façon assez spectaculaire qu'est-ce que c'est que de l'inclusion, mais aussi qu'est-ce que c'est le travail d'équipe. C'est vraiment frappant. Alors, si on est impatient, si on veut voir tout de suite, c'est sur le site de Ami et Télé. C'est comme ça que je l'ai vu en fin de semaine. Et sinon, ben on va. Ça s'appelle Emmène-moi. Et si vous en entendez parler, n'hésitez pas. Il n'y a pas d'hésitation à avoir d'aller voir ce film-là. Merci beaucoup, Claudie Simard, pour ce beau témoignage, cette belle conversation.
Merci à vous de m'avoir permis de parler de tous ces gens formidables que j'ai rencontrés puis de les mettre en lumière.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Un peu de temps sur une broche, dans tous mes états. Faudra bien que je te dise à quoi ça ressemble une crise, mais elle n'est pas finie. Puis dans ce temps-là, je parle pas. Puis j'écoute pas personne. Ça sert à rien que tu me donnes de ton temps pour l'instant. Je te le demande comme ça. As-tu deux secondes? Non, as-tu deux minutes? As-tu deux minutes à me consacrer? As-tu deux secondes? Non, as-tu deux minutes? As-tu deux minutes à me consacrer?
Deux minutes à me consacrer. veux sortir en même temps.
Rendant hommage à Pauline Julien, c'est Stéphie Choc qui chantait « As-tu deux minutes? »
Donc, c'est pas juste une publicité pour Bell.
Ah, ça, je l'ignorais.
Ah oui. Vous vous souvenez quand il y a la semaine...
Bell pour la cause?
Oui, c'est ça.
D'accord.
C'est un thème qui avait déjà été utilisé.
Ah bon?
Mais de l'entendre au complet, c'est vraiment le fun. Je termine cette émission par par actualité. Par exemple, du yoga en plein air à la place publique, c'est à Saint-Jean, sur Richelieu. C'est un texte trouvé dans le canadafrançais.com le 6 juillet. Les lundis origine yoga reviennent cet été. La population, ça avait été hier, ça aurait été du very hot yoga. La population est invitée à prendre part aux 3 séances gratuites qui auront lieu sur la place publique du vieux Saint-Jean. Les rendez-vous sont prévus le 7, le 28 juillet et le 18 août de 19h à 20h. L'accès est gratuit, mais les participants sont invités à offrir une contribution volontaire et on suggère des dons de 10 ou 20 $. La totalité des dons sera remise à la maison Le Point commun, qui est un organisme local qui accompagne des personnes vivant avec des troubles sévères de santé mentale afin de les soutenir dans leur autonomie et leur qualité de vie. Et j'ai un article que je vais probablement utiliser durant les 4 prochains jours. C'est 5 activités sportives accessibles à faire sur l'eau cet été. C'est un article que j'ai trouvé sur Altergo. Et je commence avec la voile adaptée. Grâce à des voiliers adaptés, l'Association québécoise de voile adaptée offre des activités de voile aux personnes ayant des limitations motrices ou sensorielles, même sévères. Pas besoin d'avoir de l'expérience pour prendre part à l'activité et voguer en toute liberté. Les sorties sont adaptées aux besoins et aux capacités de la personne participante. La QVA offre des sorties récréatives individuelles ou de groupe, ainsi que des programmes d'apprentissage à Pointe-Claire et à différents endroits un peu partout au Québec, dont à Écovoile en Gaspésie, au camp Massawippi dans les cantons de l'Est et au club nautique du Petit Magog près de Sherbrooke. Et c'est comme ça que je vous laisse pour ce matin, mais on se reparle demain matin à 9h30 au Canal M à l'émission Au quotidien.